Ça y est, c'est parti. Bienvenue, bonjour aux participants qui sont ici à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Et donc, bonjour aux internautes qui nous ont rejoints et qui vont continuer à nous rejoindre, sans compter ceux qui nous rejoindront plus tard, dans quelques jours, voire dans quelques mois, car nous avons remarqué que ces conférences sont très suivies, et même bien après que c'était donné. Donc, voilà, très heureux de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous présente Florent Delefi. Il faut que je le dise correctement. Oui, Delefi, c'est ça, Florent ? D'accord. Bien, qui vient nous parler des débris spatiaux, je vais vous le présenter. Il ne travaille pas à l'Institut d'Astrophysique de Paris, mais tout près d'ici, à l'IMCCE. Alors, l'IMCCE, c'est l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, très utile pour les astrologues. Ouais, ils ont besoin des éphémérides pour faire leur...
Entre autres choses.
Entre autres les astrologues, bien sûr, c'était une plaisanterie. Florent est... Le nom m'a étonné. Il est Arajois.
Arajois.
C'est ça. D'accord, d'Arras. Et il est titulaire d'un DEA de l'astronomie fondamentale, mécanique céleste et géodésie à l'Observatoire de Paris. Ça fait déjà un certain temps maintenant, 1999. Ensuite, il obtient un doctorat de mécanique céleste à l'Observatoire de Paris, devient membre du CNES et de l'Université de Namur. Donc on reste un petit peu postdoc là-bas, dans le Nord. Ensuite, nommé chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur en 2005, prend en charge le pilotage du Centre français d'analyse de données de télémétrie laser sur satellite, donc nous approchons du sujet de ce soir, rejoint l'IMCCE à l'Observatoire de Paris en 2010 pour participer à la mise en place d'un pôle d'études sur l'environnement terrestre. J'imagine que c'est à partir du spatial, à partir de...
Exactement, débris spatiaux et sa météorite.
Voilà, donc on est encore dans le sujet d'aujourd'hui. Donc en 2015, il est directeur adjoint de l'IMCCE. Alors, bien sûr, comme beaucoup de chercheurs, nous avons nos obligations professionnelles, mais aussi, entre autres missions, nous devons participer à la diffusion de la culture scientifique, ce que Florent fait très très bien. Mais je voulais juste rappeler quand même sa mission principale au sein de l'IMCCE, qui est l'orbitographie des satellites artificiels de la Terre, et pour étudier comment ces populations de débris évoluent au long terme. Et il y a également un autre aspect, un autre volet dont tu ne parleras peut-être pas aujourd'hui, qui est l'étude de la Terre depuis l'espace avec des précisions extrêmes qui permettent donc d'avoir des... Alors, précision extrême, c'est de l'ordre du centimètre au millimètre depuis l'espace, ce qui permet, j'imagine, de savoir à peu près où se trouvent les chars russes à tout moment. Hein. On n'a pas besoin de Starlink parce que vous avez peut-être remarqué que Elon Musk a fait une publicité, enfin, il a déployé une partie de Starlink à la verticale de l'Ukraine pour communiquer la position des chars russes afin que les drones puissent les cibler facilement. Donc voilà, ça c'est le deuxième volet. Mais évidemment, comme tout chercheur, on dirige des thèses et coordonne plusieurs projets de recherche. Mais en ce qui concerne la diffusion de la culture scientifique, je pense que c'est une place de roi parce que l'environnement terrestre permet évidemment un certain nombre d'événements d'avoir lieu. Vous en avez tous la connaissance, il y a les éclipses, il y a les éclipses de soleil, les transits, donc il participe à ces actions-là. Et je vais aller assez vite parce qu'il y a encore d'autres choses que je pourrais développer, mais je voulais juste terminer par un petit point qui m'a semblé auteur d'un livre, Impact. Je ne sais pas de quoi il s'agit, tu peux peut-être en dire un mot. Mais je mentionne, il a calculé en particulier, il s'intéresse à son environnement, pas seulement le ciel, mais là où il vit. Il a calculé le cadran solaire de la place de la gare à Arras, là où il est né, et récemment a développé un logiciel, ça c'est intéressant, qui catalogue et modélise les orbites de l'ensemble des objets artificiels gravitant autour de la Terre. Ce logiciel s'appelle Stella absolument indispensable parce que dès qu'on envoie un satellite ou dès qu'on a envie de sortir un peu se promener dans l'espace, bien, on n'est pas malheureux d'avoir un logiciel qui va prédire si vous allez en recevoir dans la figure. Voilà. Donc c'est pour aller vite que je dis ça. Donc merci de nous parler des débris spatiaux. C'est un sujet extrêmement important. Nous en avons eu un écho assez tragique, peut-être qui préfigurait ce qui se passe en ce moment. C'était le 17 novembre 2021, je me souviens très bien. Les médias nous apprenaient la destruction volontaire d'un satellite russe par un missile russe. Voilà, c'était évidemment pas nécessaire de se débarrasser de ce satellite de cette manière-là. C'était, je pense, une démonstration de force qui, je pense, préfigurait ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, en tout cas, merci Florent. Merci, et donc nous allons t'écouter tout de suite parler des débris.
Merci Daniel pour cette introduction. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir en voisin très très proche pour faire l'une des tâches qu'il me plaît particulièrement de faire en tant qu'astronome, c'est effectivement parler de mon métier dans un langage sans termes techniques, du moins le moins possible, de manière à ce que le discours soit accessible au plus grand nombre. Et puis c'est aussi un devoir que l'on a tous, autant qu'on est en tant que chercheur, d'essayer en tout cas de rendre le discours accessible sans équations, même si évidemment elles ne sont jamais très très loin. Le livre dont tu parlais, le livre Impact, hein, c'est un livre qui a été coordonné par Sylvain Boulet, qui est l'actuel président de la Société astronomique de France, et qui vise à accompagner le programme de sciences participatives Vigiciel en mettant à disposition un certain nombre de fiches pédagogiques, de notions autour des essaims météoritiques, des astéroïdes géocroiseurs et des météorites, tels qu'on peut les retrouver partout à la surface de la planète. Et ce dont je vous parle ce soir, c'est un petit peu relié à ça, finalement, vu que, tout Gaulois que nous sommes, la question importante, c'est de savoir ce qui est susceptible de nous tomber dessus si on n'y prend pas garde. Donc ce soir, tout va bien. En tout cas, dans l'amphi de l'IAP, il n'y aura pas de chute de météorites ni de débris spatial. J'ai pensé intéressant de commencer par cette petite bulle un peu humoristique, parce que il faut bien voir que en l'espace de quelques dizaines d'années, un petit peu après le début de l'ère spatiale, on a complètement changé d'ère. Changé d'ère en termes de population des débris spatiaux. Aujourd'hui, autour de la Terre, comme je vais vous le mentionner dans quelques instants, il se trouve qu'il y a autour de nous plusieurs dizaines, voire centaines de millions, de millions d'objets qui tournent autour de nos têtes. Donc, l'environnement spatial, voici à quoi il ressemble. Ça, c'est une image qui est issue de l'Agence spatiale européenne, la Terre au milieu, dont vous distinguez évidemment la région des orbites basses, quelques centaines de kilomètres d'altitude. Qui c'est le patron ? Quelques centaines de kilomètres d'altitude. Ici, la ceinture de l'orbite géostationnaire, 36 000 km d'altitude, et sur ce graphique sont représentées l'intégralité des objets, du moins tels qu'ils sont simulés, avec évidemment des zones de l'espace qui sont plus ou moins denses selon l'endroit où on se situe dans l'espace. Évidemment, là où il y a des objets, ce sont là où sont situées les orbites d'intérêt pour l'observation de la Terre, pour les télécommunications, pour la météorologie, et par la force des choses, c'est également là où sont situées une bonne partie des débris spatiaux. Et Daniel l'a précisé, il se trouve effectivement que je suis membre de l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste, et de calcul des éphémérides. Je voudrais faire un parallèle avec la vision qu'on a aujourd'hui du système solaire. Donc le système solaire, le voilà ici représenté, avec le Soleil au centre, évidemment, les planètes par ordre d'éloignement au Soleil, Mercure, Vénus, la Terre doit être ici, Mars, ici c'est l'orbite de Jupiter, ici c'est l'orbite d'un astéroïde qui est intéressant pour l'Observatoire de Paris, vu que c'était Milan Stefanik, l'un des assistants de Jules Janssen à l'époque. Et on a tracé son orbite dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Et le point commun avec l'image précédente, c'est que chaque point sur cette image représente un objet dont on est en mesure de calculer la trajectoire. Les équations de mouvement, les équations d'observation, l'ajustement des conditions initiales, et à partir de là, on est en capacité de déterminer à tout instant l'ensemble des positions. Et dans le système solaire, on atteint des précisions de la dizaine à la centaine, voire le kilomètre, une centaine de mètres près, voire le kilomètre. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que je vous ai ici résumé un certain nombre de caractéristiques des planètes du système solaire. Et la colonne intéressante, c'est la dernière colonne ici à droite. La dernière colonne ici à droite représente le produit de la constante de la gravitation universelle multipliée par la masse du corps central. Et c'est le produit GM. Et là, ce sont les dernières valeurs qui sont actuellement disponibles pour chacune des planètes. Et ce que vous remarquez peut-être, c'est que dans le cas... Tiens, je n'ai pas pris le pointeur. Il est sur la table peut-être. Hein ? Oui, pour l'écran. D'accord, donc je continue avec la souris. Dans le cas de la Terre, ici... vous remarquez qu'on a deux chiffres significatifs supplémentaires par rapport à l'ensemble des autres planètes. Ça veut dire que la mécanique céleste autour de la Terre, grâce à un certain nombre de satellites artificiels en particulier, on est en capacité, Daniel le précisait, l'orbitographie de très haute précision, de connaître certaines positions à mieux qu'un centimètre près. Et ça, c'est compatible avec 10 chiffres significatifs connus sur le facteur GM pour ce qui concerne la planète Terre. Alors, l'équation sous-jacente, c'est la troisième loi de Kepler, qui, comme vous le savez, va relier le demi-grand axe d'une orbite à la période de révolution. Kepler l'a énoncé au XVIIe siècle. Et cette troisième loi de Kepler, qui est bien évidemment vérifiée pour les planètes qui tournent autour du Soleil, elle va être également vérifiée pour les satellites qui tournent autour de la Terre. Et en observant des satellites particuliers, comme ici le satellite Lageos, on est en capacité, comme je vous le disais, en interprétant justement le temps mis par un satellite pour faire le tour de la Terre, à relier l'observation de sa trajectoire au fameux facteur GM, puisque dans la troisième loi de Kepler, on sait que le moyen mouvement du satellite élevé au carré multiplié par le cube du demi-grand axe est égal à cette fameuse constante GM. Donc on peut faire un calcul d'erreur qui va relier l'erreur sur le demi-grand axe à l'erreur produite sur le GM, et une erreur sur le demi-grand axe de l'ordre d'un centimètre va donner une précision relative sur le GM de l'ordre de 10-10. Et petite parenthèse en passant, ce dixième chiffre significatif pour ce qui concerne l'environnement terrestre est particulièrement important vu que les redistributions de masse dans le système Terre, les échanges de masse de glace, les échanges de masse dans les océans, la répartition de la masse d'eau dans les océans, voire les eaux continentales, produisent des variations du champ de gravité de l'ordre de 10-10. Donc avec ce genre de considération, on est en capacité de montrer qu'effectivement, ces 10 chiffres significatifs sont effectivement extrêmement utiles. Alors, puisqu'on parle avant tout des engins spatiaux qui tournent autour de nos têtes, voici un graphique relativement récent sur lequel sont indiqués, à partir du lancement de Sputnik, 1957, les différentes... les différents lancements opérés par les États-Unis, l'URSS ou l'ex-URSS, et l'ensemble des autres pays. Et ce que vous remarquez immédiatement, c'est que, au cours des dernières années, on assiste à une augmentation gigantesque du nombre de lancements, qui n'est pas due que à Starling, d'ailleurs. Hein, on peut distinguer trois phases, finalement, la période de la guerre froide, ici jusqu'à la fin des années 80-90. Une deuxième période où le nombre de lancements a été relativement diminué par rapport à la première. Et puis, l'arrivée sur le marché, troisième phase, eh bien, des opérateurs privés qui font vraiment augmenter le nombre de lancements dans des proportions extrêmement grandes. Et si on détaille un petit peu eh bien, la contribution de tous ces autres pays, on va trouver eh bien, la France, l'Inde, l'Europe, le Japon. Vous voyez que cette augmentation, eh bien, elle est un petit peu sensible également à la fin, enfin sur les dernières années, mais on n'atteint toujours pas la capacité de lancement et la force de lancement des États-Unis, y compris les opérateurs privés. Donc, après cette introduction, ce dont je vous propose de discuter ce soir, eh bien, ce sont ces différentes parties, à savoir une description de la population des débris spatiaux, de quoi est-elle formée, combien d'objets, sur quelles orbites. Puisque j'aborde cette description sous l'éclairage des collisions, eh bien, je vais vous parler des quelques collisions qui ont rythmé eh bien, l'histoire de la conquête spatiale. Et puis, on a beaucoup entendu parler des grosses collisions, des collisions avec des gros objets. Eh bien, il faut aussi mentionner les collisions avec de petits objets. Les collisions avec des petits objets sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup moins destructrices, hein, vous vous en doutez, vu qu'il est avant tout question d'énergie cinétique. L'énergie est également liée à la masse de l'objet. Et puis, quelques anecdotes sur les fausses collisions dont on peut éventuellement entendre parler dans les médias. Et puis, un point de réflexion pour terminer, qui sera consacré justement eh bien, aux flottilles de satellites, hein, l'autre terme des méga-constellations comme Starlink, et quel va être l'impact de ces constellations sur la capacité qu'on a à observer le ciel et à encombrer l'espace autour de nous dans des proportions qui commencent à poser un certain nombre de problèmes. Alors, un exemple de ce qui peut se passer, justement. Ce film qui est... Alors, il faut que je le fasse démarrer, peut-être. Voilà. Ce film qui est issu d'un document de l'Agence spatiale européenne qui est remis à jour très régulièrement, montre justement comment, à partir d'une simple explosion d'un objet, on finit par occuper eh bien, toute l'orbite de cet objet, et progressivement tout l'environnement de la Terre. Cette deuxième partie concerne eh bien, une collision entre un satellite Iridium et un satellite Cosmos, dont on parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, avec le jeu de la dynamique orbitale et le jeu des perturbations. Eh bien, vous voyez que ces nuages de débris finissent effectivement par occuper tout l'espace le long de la trajectoire, et plus le temps passe, plus les plans orbitaux des différents débris générés vont se disperser autour de la Terre et finalement occuper toute une gamme d'altitudes au bout d'un temps qui n'est que de quelques centaines de jours. Donc c'est vraiment la force ou l'inconvénient de la dynamique et des perturbations orbitales. C'est-à-dire qu'à partir d'un point d'impact qui est unique à un moment donné, eh bien, au bout de quelques centaines de jours, tout l'espace va être occupé. Et évidemment, ça va causer des problèmes sur du court terme, hein, vu que s'il y a un objet dans ce coin-là, eh bien, l'orbite va être également polluée. Et évidemment, sur le long terme, la question du long terme, c'est quelque chose de très important, y compris pour eh bien, la capacité de l'humanité à continuer à opérer dans les régions d'altitude basse. Et puis, sur du très long terme, la question de l'environnement spatial est effectivement quelque chose qui préoccupe beaucoup les opérateurs de satellites, les agences. Et cette évolution long terme, hein, vous voyez là, on est déjà arrivé en l'an 2200, eh bien, préoccupe beaucoup eh bien, les gens qui réfléchissent à l'évolution de notre environnement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de freinage atmosphérique, au-delà d'une certaine altitude, l'atmosphère ne peut plus jouer de rôle de faire rentrer eh bien, un certain nombre d'engins. Et du coup, les satellites qui sont en orbite, eh bien, ils sont pour des centaines, voire des milliers d'années. Et le type de méthode qu'on est amené à utiliser pour eh bien, décrire et comprendre la phénoménologie autour de la Terre, c'est exactement la même que celle sur laquelle reposent eh bien, les études d'évolution du système solaire sur plusieurs dizaines de millions d'années. Il y a de la chaoticité, il y a des effets de résonance, de la même manière que dans le système solaire, et ce sont d'ailleurs en général le même genre d'équations sur lesquelles on est amené à travailler. Alors, puisque j'aborde justement cette problématique du point de vue des débris spatiaux, des sources de débris spatiaux, il y en a un certain nombre. Je mentionne, vous le voyez, les satellites qui sont devenus non opérationnels, donc qui ne sont plus opérables, qui ne sont plus manœuvrables. Les troisième étage de fusée, également extrêmement nombreux. Les objets d'accompagnement de mission, alors ça, ce sont les morceaux de polystyrène et de carton d'emballage pour protéger des vibrations, pour vraiment protéger les satellites lancés. Et puis, comme on va le voir, les fragments issus d'explosions ou de collisions, c'est notre sujet principal de ce soir, c'est la source principale de production des débris. Et d'ailleurs, encore plus les explosions que les collisions. Et puis, on a des tout petits débris, que sont les résidus de carburant, ou bien les particules issues de la dégradation des surfaces. Et à chaque type de débris spatial correspond une taille typique, et c'est l'objet de ce transparent qui est un petit peu chargé, mais l'important à voir sur ce transparent-là, c'est que la taille du débris soit de l'ordre du micron, de la dizaine ou centaine de microns, ou d'une taille de l'ordre du millimètre, eh bien ces tailles sont suffisantes pour créer déjà des dommages sur les satellites, dont certains sont parfaitement visibles. Vous avez sur la partie droite eh bien, un test d'impact en hypervélocité, vitesse de 6,8 km par seconde, c'est une vitesse tout à fait typique dans l'environnement terrestre. La vitesse d'éjection, c'est de l'ordre de 10 à 11 km par seconde. Et vous voyez que cette bille d'aluminium de 12 mm de diamètre, eh bien, projetée sur un volume complet eh bien, d'une masse d'aluminium, eh bien, produit un impact extrêmement important. Puis là, c'est un exemple eh bien, de perforation d'une protection thermique qui, du coup, peut être mis en jeu si jamais il y a justement une collision avec un satellite opérationnel. Ce qui est intéressant de voir, ou bien plutôt un peu inquiétant, c'est que tous les satellites de taille plus grande que 1 cm peuvent générer des collisions catastrophiques. C'est-à-dire qu'une collision entre un satellite opérationnel et un débris spatial d'une taille supérieure à 1 cm eh bien, peut entraîner la perte du satellite. Tout objet plus grand que 10 cm va être observable par les moyens d'observation actuels, que ce soit des radars ou des télescopes répartis à la surface de la Terre. Par contre, le problème va se situer entre 1 cm et 10 cm. L'objet a déjà une taille suffisante pour causer des dommages importants, mais n'est pas complètement décelable par les moyens actuels. Et si on regarde l'occurrence de ces événements, de ces fameuses collisions, donc là je distingue eh bien, la région des altitudes basses, de l'orbite géostationnaire, 36 000 km d'altitude. Les orbites GTO, ce sont les orbites de transfert géostationnaire, c'est-à-dire le point le plus bas à quelques centaines de kilomètres d'altitude et le point le plus élevé à 36 000 km, donc une orbite extrêmement excentrique. Et vous voyez que le temps entre deux collisions, eh bien, évidemment, dépend de la taille de l'objet. Plus l'objet est grand, plus la collision est catastrophique, mais plus la probabilité est faible. Mais pour des objets de l'ordre de 1 cm, vous voyez qu'à 400 km, on en a un tous les jours, potentiellement. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas s'arranger dans le futur. Alors, des objets, des satellites, vous le savez, hein, on en a de très différents types. Voici une belle image de Spoutnik, hein, 4 octobre 1957. Et puis, dans l'environnement terrestre, on va trouver des satellites de toutes formes, avec des panneaux ou bien sans panneaux solaires, et qui ont des objectifs différents selon les concepteurs. Et si je fais un dessin un petit peu à l'échelle, eh bien, l'orbite la plus élevée, c'est l'orbite géostationnaire, hein, là où on va trouver des satellites de météorologie en particulier, des satellites de télécommunication. Les satellites les plus bas sont à quelques centaines de kilomètres d'altitude, c'est là où on va en particulier trouver la Station spatiale internationale. Là où il va y avoir de l'atmosphère, hein, qui va entraîner une décroissance du demi-grand axe, quelquefois dans des proportions extrêmement importantes. C'est là où on va trouver les satellites d'observation de la Terre. Ça, c'est un satellite dédié à l'étude du champ de gravité et du champ magnétique qui avait été lancé au début des années 2000. Aux altitudes intermédiaires, on va trouver des satellites comme le fameux satellite Lagéos qui a permis de déterminer la constante GM. Et puis, à 20 000 km d'altitude, on va trouver tous les GNSS, tous les satellites de radionavigation par satellite, les GPS, les Galileo, les Russes GLONASS et les Chinois Beidou. Et un peu partout, qui est ici représenté par des tournevis, on va trouver des débris spatiaux. Alors, toute cette... toute cette faune est répartie par un certain nombre de familles dynamiques, hein, selon l'endroit où elle se situe à la surface, dans l'environnement terrestre. La chose... J'ai perdu la souris. Pourquoi j'ai perdu la souris? Ça ne va pas être pratique pour vous montrer. Tu la vois? Ah oui, bah pourquoi je ne la vois pas, moi? Bah ça va être pratique, ça. Alors, la chose importante, les familles importantes à remarquer, ce sont ici la famille des géos, les orbites géostationnaires, situées à 36 000 km d'altitude. La famille, ici, des Léo, la famille des orbites basses. Et vous voyez qu'en termes de nombre d'objets, c'est évidemment la région des Léo qui domine très largement en termes de nombre d'objets. Jean, tu crois que je peux sortir du diaporama et le remettre? Parce que j'ai vraiment perdu la souris. Hein. Allez, j'arrête le diaporama. Et on va le remettre de suite. Voilà. Et si je vous montre un autre tableau, qui est celui-ci, avec la même répartition en famille dynamique, vous voyez que si je divise chacune des familles en les charges utiles, les fusées de lancement et les débris spatiaux, eh bien les débris spatiaux représentent en particulier pour la région des orbites basses une très très grande majorité. Les satellites fonctionnels ne sont pas les plus nombreux et très loin de là. Et très très loin de là. Et évidemment, c'est devenu une préoccupation majeure de nos décideurs et des opérateurs de satellites. Alors, je vais m'arrêter un petit peu longuement sur cette planche-là. Cette planche-là représente par famille, hein, donc le nombre total des objets, les débris spatiaux, les charges utiles, les satellites opérationnels et les troisième étage de fusées. Vous remarquez que cette courbe qui démarre à nouveau en 1957 et qui s'arrête le mois dernier, avril 2022, montre évidemment une tendance à l'augmentation, quasi linéaire finalement, mais qui est ponctuée par un certain nombre d'événements comme ici, qui sont justement des événements catastrophiques qui, à eux seuls, représentent à peu près 40 à 50% de la population totale des objets catalogués. Et dans chacun des cas, ce sont justement des exemples de fragmentation, hein, d'explosion, ou de collision. Et chose à remarquer également, avec le nombre de lancements qui augmente considérablement au cours des dernières années, vous remarquez à la toute dernière période de ce graphique, hein, depuis quelques années, une montée vraiment importante, non seulement du nombre de lancements, mais du nombre d'objets et de débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Alors, il y a des petites périodes, un petit peu comme ici, où on a tendance à croire que le nombre d'objets a tendance à diminuer, ça ne dure pas très longtemps. Il peut arriver que le Soleil, avec son cycle de 11 ans, fait augmenter la densité de l'atmosphère autour de la Terre, donc augmente l'efficacité du freinage atmosphérique et donc fait retomber un certain nombre de débris dans l'atmosphère terrestre quand le Soleil est en période de maximum d'activité. Mais vous voyez que cette tendance est quand même une tendance très très clairement à la hausse. Alors quel est l'historique de ça ? Je vous remontre à nouveau un extrait de ce film de l'ESA. Donc, nous partons du début de l'ère spatiale. Au début, seulement les orbites basses sont concernées par les débris spatiaux. Première orbite géostationnaire dans le milieu des années 60. Et puis, plus le temps passe, plus on a tendance à occuper l'intégralité de l'espace jusqu'à l'orbite géostationnaire, en formant même une ceinture autour de l'orbite géostationnaire. Donc l'orbite géostationnaire, elle est unique, vraiment parallèle à l'équateur, mais de part et d'autre de l'équateur, jusqu'à à peu près 15 degrés d'inclinaison par rapport à l'équateur, on va trouver des débris spatiaux sont là, soit parce qu'on les a placés à la recherche d'orbites parking, d'orbites sur lesquelles sont placés les satellites après leur fin de vie opérationnelle, ou bien parce qu'ils sont arrivés là avec le jeu des perturbations orbitales, et en particulier les perturbations orbitales dues à la Lune et au Soleil. Alors regardons cette fois-ci ce double graphique qui concerne la densité des objets. Donc là, l'unité, c'est nombre d'objets par kilomètre cube. Et pour la région des orbites basses, alors vous voyez qu'il y a déjà des très grandes différences entre les différentes altitudes. Là où on va trouver des débris, donc un nombre d'objets importants, c'est là où on a lancé des missions opérationnelles. Là, c'est une constellation qui a été lancée en 1998 qui explique ce pic qui est là. Mais je voudrais insister sur la partie de droite de ce graphique qui détaille dans la région des altitudes basses, quelques centaines de kilomètres d'altitude jusqu'à 1600 km d'altitude, la contribution justement des événements majeurs qui sont arrivés au cours des 20 dernières années. Et vous voyez que si la courbe bleue représente tous les débris, les diagrammes rouge, vert et rouge, vert et orange, je dis bien, vous voyez que correspondent quasiment exactement à la densité totale au voisinage de 400 km. Et au voisinage de 600 à 800 km d'altitude, ces événements majeurs qui sont indiqués là représentent une très très forte contribution à la densité totale des objets. Donc encore une fois, c'est un exemple qui illustre le fait qu'un tout petit nombre d'événements dans l'environnement proche de la Terre est responsable d'une très grande part de l'ensemble de la population des débris spatiaux. Et si je regarde justement quelle est cette proportion, cette fois-ci en termes de pourcentage, vous voyez que dans les orbites basses, 60% des objets sont des débris spatiaux. Ce qui est quand même quelque chose d'assez original, vu que c'est une population d'objets qui n'était pas prévue pour être là au tout départ. Alors, autre description de cette répartition autour de la Terre. Cette fois-ci, c'est un diagramme qui représente le nombre d'objets classés en fonction du demi-grand axe, donc l'altitude en quelque sorte, en tout cas pour les orbites quasi circulaires, et l'inclinaison. Inclinaison 90 degrés, le satellite a une orbite polaire, donc il va passer pôle nord, équateur, pôle sud, équateur, etc. Inclinaison 45 degrés, on va se limiter aux zones de latitude comprises entre plus ou moins 45 degrés. Et puis évidemment, inclinaison 0, orbite équatoriale, parallèle à l'équateur à tout instant. Et vous voyez que sur cette répartition-là, alors encore une fois divisée en trois catégories, hein, les troisième étage de fusée, les débris spatiaux et les charges utiles, eh bien, il y a des zones qui vont être très peuplées et des zones qui vont être complètement vides. Ça, c'est en fonction des objectifs des missions. Ça, c'est dû au fait que eh bien, le choix d'une inclinaison par rapport à l'équateur eh bien, va déterminer l'intégralité des zones survolées. Et si on est eh bien, un Scandinave, on va avoir tendance à avoir envie d'avoir une orbite très inclinée, justement pour que le satellite survole mon territoire. Pareil pour les Russes. Les Russes vont privilégier pour leur système GLONASS une inclinaison de l'ordre de 65 degrés. Tandis que pour nos GPS ou Galileo, une inclinaison de 50 degrés suffira pour avoir la quasi-totalité du temps les satellites en visibilité. Donc il va y avoir des inclinaisons qui vont être très, très privilégiées par rapport à d'autres. Et donc, dans l'espace de ces paramètres orbitaux, eh bien, les densités sont également très, très variables. Alors ici, je vous montre le rôle joué par l'excentricité. Hein, donc là, c'est évidemment la loi des aires qu'on illustre là. Mais ce sur quoi je veux insister ici, c'est le rôle joué justement par l'excentricité des trajectoires qui, quand elle est importante, comme c'est le cas ici, eh bien, va faire traverser aux satellites des gammes d'altitude extrêmement différentes. Et donc pour un satellite qui a une certaine excentricité, la probabilité que le satellite, je vais revenir ici, voilà, en l'arrêtant, la probabilité pour un satellite excentrique eh bien, de rentrer en collision avec un autre débris ou un satellite opérationnel est beaucoup plus forte que pour un satellite circulaire. Le problème vient du fait que, à cause des perturbations lunisolaires, eh bien, l'excentricité a tendance à augmenter au fil des années. Et ça, c'est un souci commence à être observable dans les orbites de débris spatiaux. Voici sur la droite, cette fois-ci, le même diagramme que précédemment, mais en représentant la valeur de l'excentricité en fonction du migrant axe. Donc évidemment, on a une courbe limite qui est ici, qui indique l'excentricité maximale pour une altitude donnée, hein, sinon le satellite va rentrer en collision avec la Terre. Mais vous voyez sur ce graphique de l'excentricité qu'on va trouver dans l'environnement terrestre eh bien, des excentricités extrêmement fortes. 0 bits, ça va correspondre à une altitude la plus élevée, 36 000, hein, comme le GTO, les orbites de transfert géostationnaires, et un périgée de l'ordre de 4 à 500 km. Donc pour un satellite de ce type-là, eh bien, toutes les gammes d'altitude vont être traversées, donc potentiellement toutes les zones où on va trouver une grosse densité de satellites et donc de débris vont potentiellement être impactées. Et donc les orbites à excentricité forte ont des probabilités beaucoup plus grandes que les orbites circulaires que de rentrer en collision avec des satellites et des débris spatiaux opérationnels. Dans beaucoup de cas, ça se passe bien, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace là-haut, mais il y a un certain nombre eh bien, d'exemples, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, où les choses se sont mal passées. Alors, premier exemple, on continue jusqu'à 30, Daniel, c'est ça, à peu près, 30-40. Eh bien, la première explosion référencée, 29 juin 1961, explosion d'un étage supérieur de la fusée américaine Transit. Et c'est le début des soucis. Ce n'était pas une altitude très élevée, donc tous les satellites générés par cette explosion sont rentrés dans l'atmosphère un petit peu plus tard. Et il en a été de même pour un autre exemple, eh bien, cette fois-ci un exemple côté russe. Et l'exemple que je vous mentionne là est arrivé le 28 février 2006, échec au lancement de cette fusée, sur une orbite elliptique. Et 24% du carburant disponible à bord de la fusée avait été consommé. Un an plus tard, vous voyez, le 2 février 2007, l'auto-inflammation du carburant a entraîné une désintégration de l'engin, générant un nuage de débris. Et avec le test antimissile chinois Fengyung 1C, eh bien, cet événement est responsable de 30% de toute la population des objets actuellement catalogués. Donc, ce sont des exemples qui sont bien connus et qui, effectivement, sont des exemples à chaque fois dramatiques. Donc, si je fais un petit bilan des fragmentations, hein, des explosions de satellites hors collision, eh bien, vous voyez que depuis 1957 jusqu'à très récemment, eh bien, des explosions naturelles, eh bien, on en trouve quelques-unes par an. Et plusieurs centaines, hein, je mentionne 242 satellites, se seraient désintégrés. C'est la source principale de production des débris spatiaux, cette fragmentation, en général à cause du carburant résiduel à bord des satellites. Donc l'une des recommandations aujourd'hui, c'est de consommer avant de perdre toute possibilité de manœuvre tout le carburant disponible à bord, justement pour éviter ces phénomènes de corrosion et ces phénomènes ensuite d'explosion spontanée, en quelque sorte, pour éviter de faire démarrer une réaction en chaîne qui va faire augmenter considérablement la population des débris. Et si l'on s'intéresse, c'est l'objet de la conférence de ce soir, plus précisément cette fois-ci aux collisions, eh bien des collisions, il y a quelques exemples assez célèbres. Par exemple, la première collision entre deux objets catalogués, hein, donc supérieurs à une taille typique de 10 cm, eh bien c'était à peu près il y a 25 ans. Vous avez ici un satellite français qui s'appelle Cerise, et qui a été impacté par un débris qui lui aussi était référencé, catalogué, donc suivi par les réseaux de poursuite. Il se trouve que cette première collision entre deux objets catalogués est une collision franco-française. Parce que Cerise est un satellite français, et l'objet qui l'a impacté est un fragment d'un lancement d'Ariane 4. Donc la première collision référencée entre deux objets, des catalogues, eh bien, c'est une collision franco-française, ce qui n'a pas entraîné la perte du satellite, hein, c'est vraiment le mât de communication qui a été sectionné, et régulièrement dans les catalogues de débris spatiaux, eh bien, on a des nouvelles de la queue de Cerise qui continue à être observée régulièrement et dont on demande des nouvelles tous les ans pour savoir si elle se porte bien et si elle continue à évoluer telle que les lois de la dynamique le prévoient. On aime bien avoir des nouvelles de cette queue de cerise. Daniel mentionnait le test d'antimissile russe, hein, de l'automne dernier. Il y a eu un test antimissile chinois, donc le 11 janvier 2007. Un satellite de météorologie chinois de la série des Fengyung avait été intercepté par un paramissile balistique chinois. Et comme vous le voyez, je mentionne qu'il s'agit là de l'événement le plus grave jamais enregistré dans la population des débris spatiaux, parce que cet événement a eu lieu à relativement haute altitude, c'est-à-dire à une altitude où il n'y a plus de freinage atmosphérique. Donc les objets qui ont été générés par ce test antimissile, eh bien, sont en orbite pour un très grand nombre d'années, voire décennies, voire siècles pour certains d'entre eux. Donc c'est vraiment un événement déraisonnable, surtout que, eh bien, il s'agissait de répondre à un test antimissile américain d'un satellite dont le lancement avait échoué, USA 193, et un missile américain avait détruit ce fameux satellite USA 193 pour éviter qu'il ne retombe sur des zones potentiellement habitées. La grande différence entre le test antimissile américain et le test antimissile chinois, c'est que ce test antimissile américain était une opération de survie, de sécurisation, avait été effectué dans des régions de très basse altitude. Donc tous les débris étaient rentrés très rapidement dans l'atmosphère. Et puis, autre événement très significatif, hein, pour la population des débris, c'est ce qui s'est passé le 10 février 2009. Un satellite de la série des Iridium, eh bien, est rentré en collision avec un satellite qui en fait était non opérationnel, hein, un satellite de la série Cosmos, la série des satellites, la série des satellites russes Cosmos, qui s'est passé environ à 800 km, en l'occurrence au-dessus de la Sibérie. Et les calculs d'orbite, donc là il s'agit d'une collision accidentelle, hein, purement accidentelle, il se trouve que les satellites, que les calculs de rapprochement, eh bien, n'avaient pas prévu que la distance entre ces deux satellites ne soit inférieure à 400 mètres. C'est un concours de circonstances dans le rafraîchissement des éléments catalogués qui avait fait en sorte de faire croire aux opérateurs que la distance minimale n'allait pas être inférieure à 400 mètres. Et effectivement, il y a eu un problème dans les opérations. Surtout que, comme je l'indique ici, eh bien, il n'y avait aucune procédure d'évitement de collision. Ces deux satellites sont effectivement rentrés en collision l'un avec l'autre. Et ça a généré deux nuages, un le long de l'orbite initiale d'Iridium 33, un le long de l'orbite initiale de Cosmos 2251, de quelques centaines d'objets. Mais là aussi, c'est un exemple extrêmement significatif de ce qui se passe dans la population des débris spatiaux, et c'est l'un des enjeux des prochaines années, cette affaire-là. Parce que Iridium, déjà à cette époque-là, recevait à peu près 400 signalements de passages proches par semaine. Et savoir s'il faut désorbiter, manœuvrer un satellite pour éviter un passage proche, c'est le cas aussi pour la station spatiale, hein, évidemment, eh bien, c'est une question très épineuse. Et la question la plus cruciale pour les prochaines années, ça va être celle d'éviter les faux positifs. C'est-à-dire de désorbiter alors qu'il n'est pas nécessaire de désorbiter. Et là, les opérateurs Iridium ont pris le risque et effectivement, ça a été un petit peu catastrophique. Donc si je résume les événements les plus marquants en termes de collision dans l'environnement terrestre, on va les séparer en deux périodes. Finalement, deux planches vont suffire à décrire une bonne partie des événements. Je vous ai mentionné le cas de Souris. Donc, vous voyez, sur la période de 85 à 2005, 20 ans, 1, 2, 3, 4, 5 collisions. Ce qui n'est pas un nombre si élevé que ça. 2 collisions intentionnelles, 3 collisions accidentelle, et période 2007-2019, 3 collisions intentionnelles, j'aurais pu rajouter le test antimissile russe de l'automne dernier, et une collision accidentelle, donc Cosmos 2251 et Iridium 33. Donc les collisions en orbite, finalement, ne sont pas si nombreuses, en tout cas entre les objets catalogués. Donc c'est une question bien de sécurité des opérations dans l'environnement terrestre. Évidemment, d'un point de vue de mécanique spatiale, l'enjeu c'est de déterminer à chaque instant les distances mutuelles entre tous les objets, et si possible, en temps réel. Donc il y a un vrai défi de capacité de calcul. Calculer la distance entre deux objets, ce n'est pas compliqué. Calculer la distance entre deux objets choisis parmi 25 000 si c'est plus grand que 10 cm, ou 1 million s'il s'agit des objets dont la taille typique est de l'ordre du millimètre au centimètre, là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc le véritable enjeu, il est là, dans les capacités de calcul, à réagir en temps réel, sachant qu'évidemment, il y a un certain nombre de filtres qu'on peut appliquer. Ça n'est pas utile de calculer la distance entre un satellite bas et un satellite haut, par exemple. Donc ça fait partie des recherches actuelles en mécanique spatiale. Avant-dernière partie de cette présentation, qu'est-ce qui se passe avec les petits objets? Les petits objets ont une énergie cinétique beaucoup plus faible que les objets qui sont observés, catalogués et référencés dans les catalogues de manière très régulière. Mais vous imaginez bien qu'avec une population des débris dont le nombre se monte à 100 voire 200 millions autour de la Terre, eh bien, des collisions avec des petits objets, certains ont de la taille de micromètres, hein, vous l'avez vu, la question est de savoir ce qui se passe en cas de collision. D'abord, comment on fait pour les repérer? Eh bien, il y a eu un certain nombre de missions spatiales qui ont été précisément consacrées à repérer le nombre de ces collisions avec des petits objets. J'en mentionne deux qui ont relativement bien fonctionné. La toute dernière dans la station spatiale n'a à échoué il y a quelques années. C'était le LDEF dans les années 80, Long Duration Exposure Facility, la mission Eureka, qui avait été amenée dans l'espace par la navette spatiale américaine et récupérée un an plus tard par une autre navette américaine. Et le principe, hein, ici vous avez une vue de LDEF, justement, c'est des grands panneaux un peu sensibles, et puis une fois qu'on récupère le matériau, eh bien, on va compter le nombre des impacts, et on va compter et on va référencer également le diamètre de l'impact, et avec ça on peut faire des statistiques. Vous avez ici un exemple de ce qui se passe, c'est une photo en très gros plan d'une des portes de la navette spatiale américaine, et ici ça doit être un gros plan sur un panneau solaire du Hubble Space Telescope. Donc c'est des choses qu'on peut référencer. Et avec ça, on fait des statistiques qui ne sont pas forcément fiables, mais qui peuvent donner une indication. Et voici un exemple de type de modélisation qu'on peut faire. Alors sur ce graphique-là, on a, en fonction de la taille de l'objet, eh bien, on a ici, pour une largeur donnée, eh bien, on arrive à modéliser le flux de rentrée en fonction de la fameuse taille. Donc cette partie-là, eh bien, ce sont toutes les observations issues des différentes missions. Et ici, on va retrouver, vous voyez, pour des tailles typiques supérieures à 10 cm, toute la partie qui va être effectivement observable par les moyens de mesure. Et avec ça, on peut en déduire que le flux, eh bien, de débris qui rentrent à la surface de la Terre est à peu près comparable au flux de météorites, qui est la courbe ici en pointillé. Donc c'est avec ça qu'on est en capacité de prédire un flux de rentrée et des probabilités d'impact avec des objets tout petits. Et puis, petit clin d'œil, troisième type de méthode, mais qui est beaucoup plus rare, avec un petit peu mon cœur de métier, qui est justement l'orbitographie précise. Quand on observe des satellites au centimètre près, évidemment, quand il y a quelque chose qui se passe un petit peu anormal, on le voit dans les résidus, hein, dans la différence qu'on fait entre les valeurs observées et les valeurs calculées. Et ici, sur mon petit l'Agios 1, hein, l'un de mes satellites préférés, eh bien, on avait détecté justement une collision avec un objet, alors dont l'origine n'a pas été établi avec précision, mais en tout cas, quand dans le calcul on autorisait l'ajustement d'un paramètre qui permettait de caractériser une modification de vitesse, eh bien, on avait montré que cette augmentation de résidus était compatible avec une collision avec une particule de l'ordre du milligramme. Donc ça, c'est pour la partie d'orbitographie précise. C'est un événement un petit peu unique, mais qui permet, quand l'occasion s'y prête, de manière fortuite, d'avoir des indications sur les collisions en elles-mêmes. Bien, il me reste une dizaine de minutes. Donc, je vais vous parler de deux petits cas maintenant, deux anecdotes, les quasi ou les fausses collisions. Allez, je vais vous parler d'un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a failli rentrer en collision avec l'un des tout premiers satellites Starlink, le satellite Aeolus. Donc vous savez que ce sont avant tout les Américains qui surveillent, qui ont les plus grandes capacités d'observation et de surveillance de tout l'environnement spatial. Donc le NORAD avait mentionné que il y avait une probabilité de rencontre proche le lundi 2 septembre 2019 entre le satellite nouvellement lancé, tout neuf, hein, Aeolus de l'ESA, et l'un des satellites de la constellation Starlink. À l'époque, il n'y en avait pas plusieurs milliers comme il y a déjà aujourd'hui, mais la question était de savoir s'il s'agissait d'une véritable alerte de proximité ou bien pas. Grosse discussion entre Starlink et l'Agence spatiale européenne. Qui va manœuvrer le satellite ? Starlink a répondu, nous, on ne bouge pas. Donc il se trouve que les calculs ont effectivement montré qu'il y avait une probabilité de collision et de rencontre proche assez serrée. Donc il a fallu prendre tous les tous les satellites, tous les numéros des satellites Starlink, essayer de trouver lequel était effectivement concerné par une rencontre proche. Et il se trouve que celui qui était concerné n'était pas celui qui avait été mentionné dans le communiqué de presse des Américains. C'était un autre. Mais après avoir calculé les orbites des deux engins, moi je l'ai su après, parce qu'on n'est pas du côté des opérateurs, que Aeolus et Starlink 44 étaient très très proches l'un de l'autre au large de l'Australie à l'instant donné. Et le type de calcul qu'on peut mentionner, c'est ce genre de graphique. Vous avez le temps qui s'écoule selon l'axe des abscisses, et puis en ordonnée, c'est la distance entre les deux engins. Alors évidemment, en fonction des révolutions autour de la Terre, cette distance à chaque révolution oscille entre un minimum et un maximum, mais vous voyez que précisément à cet endroit-là, le minimum de distance est très proche de zéro. Et une distance minimum très proche de zéro, évidemment, ça signifie que c'est potentiellement une collision qui est arrivée à la bonne époque. Et donc, l'ESA a décidé de manœuvrer son satellite. Et si on regarde l'historique de l'évolution du demi-grand axe de ce satellite Aeolus, voilà ce qu'on peut constater. Donc, on a là l'évolution du demi-grand axe sur plusieurs mois, entre le 14 août et le 15 septembre. Vous voyez qu'au cours de ce mois, il y a un certain nombre de manœuvres qui sont appliquées sur le satellite, des manœuvres de correction de trajectoire. Donc ici, ça prend la forme d'une variation de demi-grand axe, donc variation d'altitude, qui en général est opérée par une variation de vitesse. Et comment on fait pour modifier la vitesse d'un satellite? Eh bien, on envoie des petites poussées à partir des moteurs. Et la manœuvre qui correspond à l'évitement du satellite Starlink, elle est là, 168 mètres, ce qui est quelque chose d'assez important, et qui a permis justement d'éviter cette collision entre le satellite tout neuf Aeolus de l'ESA et l'un des satellites Starlink. Autre petite anecdote, donc là c'est une collision évitée. Autre petite anecdote, satellite Adeos 2, satellite japonais, dont on a ici une image un peu d'artiste. C'est un satellite qui est équipé d'un très long panneau solaire. Et tout comme son grand frère Adeos 1, en fait, le satellite a été perdu relativement peu de temps après son lancement. Et à l'époque, les Japonais avaient dit que le satellite avait été heurté par un débris spatial et le panneau solaire s'était détaché du satellite. Sauf que vous avez là une image radar de ce satellite après qu'il ait été perdu et qui montrait très exactement que le panneau solaire était bien présent. Donc là, c'était un faux argument que de prétendre que le satellite avait été perdu à cause d'une collision. Il s'agissait vraisemblablement d'un problème électronique. Donc là, c'est une non-collision, en l'occurrence. Conclusion. Ou plus exactement, élément de réflexion pour l'avenir. Alors, quand on parle de l'avenir dans l'environnement spatial, on parle évidemment plutôt du long terme. Alors, le long terme, on commence déjà à l'appréhender. Voici l'évolution de trois objets qui ont été lancés au tout début de l'ère spatiale, à la fin des années 50, la série des Vanguards en particulier. Et vous voyez qu'en 2020, la décroissance de l'altitude est très peu faible, donc ceux-là, ils ne sont pas prêts de rentrer sur Terre. Donc ça, c'était une petite anecdote. Mais pour dire qu'on s'intéresse vraiment à de l'orbitographie long terme quand il s'agit d'évaluer ce qui se passe sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années autour de la Terre. Du point de vue des collisions, alors ce tableau récapitule, et là j'ai pris en compte le test antimissile russe de l'automne dernier, le nombre de collisions dans l'environnement terrestre, je vous ai indiqué qu'il était relativement faible. Mais si on projette ce qui va se passer dans les prochaines décennies, vous voyez que ce taux de collision a tendance à augmenter. Et dans les prochaines années, on peut s'attendre, en dépit de la progression des algorithmes de calcul en temps réel, à une collision typiquement tous les 5 ans. Et une collision, comme je vous l'ai dit, ça fait augmenter la population de débris spatiaux dans des proportions extrêmement grandes. Alors, pour essayer de voir un petit peu ce qui va se passer, on peut justement faire ce genre de graphique. Alors, ce genre de graphique ici à gauche, eh bien, c'est l'un des scénarios possibles pour ce qui attend la population des débris spatiaux à l'échelle du prochain siècle. On a distingué eh bien, les orbites basses, avec ici les événements de collision tels qu'ils sont passés un peu avant 2010, la région des orbites moyennes, là on va trouver les satellites de radionavigation, et la région des orbites élevées. Vous voyez que le problème va rester dans la région des orbites et des orbites élevées. Et les trois petits des orbites basses, pardon. Et ces trois petits graphiques qui sont là, c'est simplement pour vous mentionner le fait que la contribution des collisions, c'est cette courbe ici, eh bien, a tendance à aller en augmentant. Et c'est quelque chose qui potentiellement ne va pas s'arrêter de sitôt. Ce graphique encore plus petit, volontairement plus petit, présente l'évolution des débris spatiaux au cours des prochaines décennies dans le cas où on met en place des procédures de réduction des débris spatiaux, des procédures de passivation, des procédures de rentrée dans l'atmosphère. Et vous voyez que malgré ces mises en place de codes de bonne conduite, eh bien, le nombre des objets en orbite basse ne va pas tellement en diminuant. C'est l'un des scénarios possibles. D'autres scénarios montrent qu'effectivement, sur un temps long, le nombre des objets peut diminuer au bout de quelques décennies. Mais sur ce dernier graphique qui est indiqué là, eh bien, on a l'évolution du nombre d'objets, c'est la courbe noire qui est ici. Si on avait arrêté tout lancement à partir de 2015. Donc vous voyez que là, hein, ici on est. Elle est ma souris, voilà. Hein, pourquoi vous ne voyez pas la souris? Depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas la souris? Si? Alors. Bon, ici à droite, on est en 2200. Ici à droite, on est en 2200. Donc vous voyez que la courbe a quand même tendance à augmenter. Donc, les agences spatiales, les groupes de travail internationaux ont mis en place justement deux régions protégées, une dans la région des orbites basses et une dans la région de l'orbite géostationnaire. Tout objet qui est dans la zone rouge qui est là est censé rentrer dans l'atmosphère moins de 25 ans après la fin de vie opérationnelle, de manière à ne pas encombrer l'espace restant. Donc il faut avoir fait la démonstration maintenant avant le lancement, en tout cas pour les satellites lancés depuis le sol français, que la mission rentrera dans l'atmosphère au plus tard 25 ans après sa phase de fin de vie opérationnelle. Autour de l'orbite géostationnaire, qui est ici le cône en vert, eh bien, il faut désorbiter les satellites. C'est-à-dire qu'un satellite géostationnaire arrivé en fin de vie doit être manœuvré de telle sorte qu'il libère la place proche de l'orbite géostationnaire qui, elle, est unique. La loi sur les opérations spatiales dit que tout objet qui est placé autour de l'orbite géostationnaire, dans la zone bleue typiquement, ne doit pas réintersecter l'orbite géostationnaire, qui est ici en vert, en moins de 100 ans. Et le problème qui se pose, c'est encore un problème de mécanique céleste, c'est que l'excentricité, en particulier à altitude élevée, eh bien, a tendance à augmenter à cause de la perturbation lunisolaire. Donc il y a des études, Daniel l'a mentionné en introduction à cet exposé, de manière à étudier la stabilité des orbites parking, qu'on peut choisir bien en avance, hein, pour essayer de mettre en évidence des conditions initiales des trajectoires parking, de manière à assurer que l'excentricité de telle trajectoire eh bien, reste dans des proportions raisonnables sur une échelle de temps extrêmement longue, au moins 100 ans. Puis dans 100 ans, on verra. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, la règle des 25 ans, quand on l'a vu arriver, on a dit pourquoi 25 ans? Parce qu'au bout de 25 ans, eh bien, l'ingénieur qui a conçu le satellite, il sera en retraite. Donc il ne sera pas attristé de la rentrée dans l'atmosphère de son petit satellite favori. Et j'en termine tout doucement avec bien un problème très actuel. Je vous montre quelques photographies. À l'IMCCE, on voit arriver de plus en plus aux services de renseignement, de calculs astronomiques et de renseignement, un certain nombre d'interrogations. Qu'est-ce que je vois dans le ciel passer? Il y en a encore eu la semaine dernière avec un nouveau lancement de SpaceX. Quand on a des trains de satellites comme ceci, c'est un lancement de SpaceX qui libère les satellites par flottille, hein, par plusieurs dizaines. Et dans le ciel, on voit comme un collier qui se déplace. C'est avant la mise à poste des satellites. Et déjà, aujourd'hui, eh bien, quand on prend des photos du ciel, ça c'était une APOD d'octobre 2019, des traces de satellites. Traces de satellites. Donc plus le temps passe, plus il y a un nombre de satellites importants qui tournent au-dessus de nos têtes, et plus la perception qu'on a du ciel devient problématique. Et la constellation Starlink, ben, voici à quoi elle ressemble. Donc rien que cette constellation Starlink-là, eh bien, va considérablement changer notre perception du ciel. Alors est-ce qu'on a besoin d'avoir un Internet en plein désert ? Alors, quand on est ukrainien, sans doute que oui. Quand on est avide de jeux vidéo et de jeux en réseau en permanence, sans doute que non. Ces constellations qui permettent d'avoir accès à Internet partout sur Terre sont certainement très utiles, mais du point de vue de l'occupation de l'espace, je pense qu'il aurait été de bon ton de les placer à des altitudes un petit peu plus élevées. De manière à ce qu'il y ait moins besoin de satellites. Là, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de satellites à terme. Surtout que, eh bien, chacun veut sa constellation. Donc, le nombre des lancements, eh bien, il n'a pas fini d'augmenter. On entend beaucoup parler de SpaceX, on a entendu parler de OneWeb. Facebook veut sa constellation, Amazon également. Donc, le nombre de lancements va continuer à augmenter et donc générer potentiellement des risques supplémentaires de collision, des opérations supplémentaires d'évitement de collision pour la station spatiale, pour les stations spatiales, pour les satellites opérationnels, et on n'est sans doute pas sorti de l'auberge. Donc il y a des mobilisations un peu de partout pour essayer de faire reconnaître le ciel comme étant un patrimoine mondial de l'humanité, hein, par l'UNESCO, par l'ONU. Est-ce que c'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre les enjeux financiers, etc., eh bien, l'avenir le dira. En tous les cas, en guise de conclusion, eh bien, des usages de l'environnement social toujours plus nombreux, et c'est évident, observation de la Terre, prévision météorologique, aménagement des littoraux, aménagement du territoire d'une manière générale, la météorologie, évidemment, l'Internet, et ça, ce sont des bienfaits absolument fondamentaux pour... Eh bien, pour gérer notre planète d'un point de vue de plus en plus global. En tout cas, c'est un vœu qu'on peut formuler. Mais, de plus en plus, une protection va être nécessaire pour les opérations en orbite, pas seulement pour les vols habités, hein, mais pour la sécurité des missions spatiales, qu'elles soient lancées pour tout objectif qu'elles doivent réaliser. Et puis, évidemment, les rentrées atmosphériques. Le problème des flottilles, il n'est pas encore épineux, mais il le sera vraisemblablement très bientôt. Donc les astronomes sont mobilisés, pas seulement les mécaniciens célestes, mais tous les astronomes qui pointent un instrument vers le ciel. Là, je vous ai avant tout parlé de la problématique dans le visible, mais ceux qui font de la radioastronomie sont beaucoup plus embêtés, parce que si un satellite dans le visible va être... peut passer dans le cône d'ombre de la Terre et du coup être invisible depuis un observateur qui pointe un télescope, les radioastronomes sont embêtés en permanence par ces satellites-là. Et évidemment, eh bien, c'est un problème qui va être de plus en plus nombreux, qui concerne également les astronomes amateurs et puis les amoureux du ciel d'une manière générale. Quand aujourd'hui on voit passer 1, 2, 3 satellites dans le ciel, on dit tiens, un satellite, un satellite, un satellite. Demain, et ça commence déjà à être ressenti aujourd'hui, on verra des trains passer en permanence avec des centaines de satellites visibles à un même moment. Donc il y a beaucoup de projets qui sont dans les cartons, beaucoup de mobilisation de tout un tas de communautés. La question est de savoir si on y va en ordre dispersé ou comme un seul homme. Les opérateurs sont concurrents tout en étant complémentaires. Donc le secteur spatial, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Le droit spatial est très bien défini, mais il ne s'applique pas de la même manière que dans les autres domaines du droit. Et l'astronome, le mécanicien céleste, il trouve sa contribution eh bien justement en calculant les trajectoires avec des niveaux de précision qui dépendent de l'objectif à suivre. Dans certains cas, ce sera le centimètre pour les plaques tectoniques, pour les applications, pour les rencontres proches. Dans d'autres cas, le kilomètre suffira. Et c'est toute la réflexion qu'on doit mener en collaboration avec les agences spatiales, de la précision qu'on doit donner au calcul pour la préservation de notre environnement terrestre. Et c'est une tâche qui est loin d'être terminée. Je vous remercie.
Merci Florent. Voilà qui a le mérite de clarifier la situation. Et je pense que maintenant on sait tous. Donc il faudra trouver des solutions. Il y a pas mal de questions qui viennent des internautes, mais peut-être d'abord je vais quand même demander si la salle a une question à poser.
Oui, bonsoir. Oui, ce qui m'a interpellé vers la fin, là, c'est, étant donné le futur monstrueux, permettez-moi de mettre des guillemets, quelle est la part de, quand on demande des autorisations, la part juridique, est-ce qu'il existe un organisme international qui gère tout ça, comme l'Internet est géré de manière internationale, etc. Voilà, juste un point là-dessus, sur le droit. Voilà, merci.
Alors, du point de vue de l'occupation de l'espace, il n'y a pas de réglementation. Il y a un organisme de régulation internationale des fréquences qui va donner des autorisations de lancement. D'ailleurs, au début de Galiléo, c'était quelque chose d'un petit peu problématique vu que les autorisations de lancement de Galiléo avaient été données pour un temps donné. Mais pour ce qui concerne l'Internet au débit par satellite, il n'y a pas d'autorisation spéciale pour ce qui concerne l'occupation de l'espace. Pour les télécommunications et les fréquences, oui, mais pas pour l'occupation de l'espace. La seule règle, c'est celle des recommandations d'un groupe de travail sur les débris spatiaux, qui en France et maintenant tout progressivement dans d'autres pays se décline également sous forme de loi. Et en France, c'est ce qui s'appelle la loi sur les opérations spatiales, de désorbitation une fois que les satellites sont arrivés en fin de vie. Mais pour ce qui concerne les lancements, il n'y a pas de réglementation, pour le moment en tout cas.
C'est inquiétant quand même. Mais bon, je me fais un peu l'écho de ce que les internautes ont posé comme question. Une des questions qui est revenue, c'est quelle est la meilleure solution pour nettoyer les débris spatiaux? De quel filet à papillon dispose-t-on pour s'en débarrasser? Si évidemment, on peut attendre qu'ils partent, mais est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en route à l'étude pour s'en débarrasser volontairement?
Il y a beaucoup d'études qui sont en cours actuellement. Certaines sont déjà en phase de démonstration. Alors évidemment, la meilleure des solutions, c'est le freinage naturel. Mais ça ne concerne que les orbites basses, et quelquefois, il faut attendre longtemps. L'une des techniques, ça va être celle d'aller récupérer des gros satellites. C'est un processus de réaction en chaîne. Des gros satellites peuvent éventuellement exploser ou rentrer en collision les uns avec les autres. Donc là où il y a un satellite avant, il y en a plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers après une collision, qui eux-mêmes sont susceptibles de générer leur propre collision avec des nouveaux objets. C'est une réaction en chaîne. Et c'est de là dont vient l'expression le syndrome de Kessler, du nom de Donald Kessler, qui avait étudié les phénomènes dans les anneaux des planètes géantes. Donc l'une des mesures préventives, on va dire, ce serait d'aller récupérer quelques gros objets par an, typiquement entre 5 et 10. L'un des premiers candidats, c'est le gros satellite Envisat, l'un des gros bus de l'espace qui avait été lancé dans les années 90, pour essayer d'éviter la mise en place d'un processus de réaction en chaîne. Première solution. Deuxième solution, le filet à papillon, effectivement. Ou bien le gros aspirateur pour essayer d'aller en récupérer, alors quelquefois un peu au petit bonheur la chance. Ça, vraisemblablement, ce n'est pas quelque chose de très efficace. En tout cas, il faudra attendre longtemps pour qu'il y ait des effets significatifs. Après, il va y avoir des dispositifs de désorbitation, en tout cas pour les satellites nouvellement lancés, comme celui des câbles électrodynamiques, Au moment de la désorbitation, eh bien, on déroule un long câble de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de long, qui va avoir la propriété de générer une force centripète qui va faire rentrer le satellite beaucoup plus rapidement qu'avec la rentrée atmosphérique naturelle. Et ça, ça fait partie des procédés actuellement en phase d'étude, en phase de conception.
C'est déjà un peu le cas. Par exemple, tu peux parler très, très rapidement du point Nemo, par exemple ?
Alors le point Nemo, c'est un peu le cimetière des satellites
des gros.
En plein milieu du Pacifique Sud, qui est l'un des points sur Terre les plus éloignés de toutes les zones habitées. Et ça concerne les rentrées contrôlées. Quand il est possible justement d'agir sur le satellite qui est en train de rentrer dans l'atmosphère jusqu'au tout dernier moment. Dans l'idéal, on essaye de le faire rentrer au voisinage de ce point Nemo, mais uniquement dans l'hypothèse où le satellite est tellement gros qu'il est susceptible de ne pas se consumer complètement dans l'atmosphère au moment de la rentrée.
Donc, c'est un danger. Oui.
Voilà, donc la station MIR.
Une autre question à ce propos, d'ailleurs, qui est posée par les internautes. Bon, il y a ces débris, comment fait-on pour se protéger ? Que ce soit. Alors évidemment, on peut slalomer, mais comment fait-on pour l'ISS ? Comment fait-on pour les navettes, pour les cosmonautes, même pour la Terre d'ailleurs ? Pour nous ?
Alors, il y a des solutions de blindage, ça c'est toujours quelque chose qui est possible. Le problème, c'est que si on blinde, eh bien, on augmente considérablement le poids. Donc forcément, le coût au lancement va être considérablement augmenté et on ne fait que reculer le problème. Les sorties extravéhiculaires dans la station, avec les navettes américaines, eh bien, étaient faites de telle sorte que la navette était placée un peu comme un pare-brise. Et donc tous les débris, tous les dangers potentiels, eh bien, étaient captés par la navette au lieu d'être captés par les combinaisons des astronautes. Ça, c'est une autre possibilité. Et puis après, il y a ce qui se passe dans des films comme Gravity, par exemple, où là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis on pense passer un bon moment, et puis on ressort avec un boulot abominable, quoi. Mais les procédures de protection, ben, ça ne peut être que ça. Le blindage ou bien le référencement quasi exhaustif de tous les objets. Et puis après, on essaye de slalomer en fonction de ce qui est possible. Mais ça coûte cher, ça se prépare à l'avance. Et c'est pas la panacée non plus.
Oui. Vous aviez dit qu'il y avait un projet pour justement éloigner un peu tous les satellites pour pouvoir en avoir moins à terme. Mais du coup, est-ce que ça... Vous aviez dit aussi que ça changerait la position parce que ça irait plus loin, tout ça. Mais du coup, ça doit aussi coûter plus cher. Du coup, comment ça pourrait s'organiser concrètement ?
Alors, c'est une des dispositions de la loi sur les opérations spatiales qui consiste en fait à garder à bord des satellites un peu de ressources en termes de carburant avant la fin de vie opérationnelle, de manière à pouvoir désorbiter le satellite et le placer sur une orbite parking qui est destinée soit à rentrer dans l'atmosphère dans un intervalle de temps relativement court, soit au contraire être placé sur une orbite où il ne va pas gêner les générations d'après des satellites destinés à la remplacer et placé sur une orbite extrêmement stable. Donc effectivement, c'est un calcul à faire. De réserver une partie du carburant, l'énergie disponible à bord pour la désorbitation, plutôt que pour les phases d'opération en toute fin de vie. Sans doute que le calcul à long terme est quand même bénéfique.
Bonsoir, merci pour votre intervention. Les Américains veulent renvoyer des gens sur la Lune avec le programme Artemis. Quel est le risque pour ces personnes-là ?
Le risque est au lancement et uniquement dans les phases d'orbite basse. Au-delà de quelques centaines de kilomètres d'altitude, il n'y a plus de débris du tout. Et le risque n'est pas plus important de se prendre un débris que de se prendre un petit astéroïde. Donc le risque est calculé, ce sont des calculs de probabilité. Il y a eu des cas où des lancements ont été repoussés, ou en tout cas... ont nécessité des investigations supplémentaires. C'est arrivé pour Ariane 5, d'ailleurs, d'avoir une alerte risque collision au lancement, parce qu'un nuage de débris passait au-dessus de Kourou quasiment au moment du lancement. L'exemple que j'ai en tête, c'était un nuage de débris qui passait au sud-ouest de Kourou alors que le lancement avait lieu vers le nord-est. Donc le risque ont été calculés. Et d'ailleurs, il y a des logiciels qui ont été développés spécifiquement pour ça par le CNES, de définir quelles sont les autres agences sont également les leurs, ça on le sent doute, de définir quelles sont les fenêtres de lancement de manière à minimiser les risques, à la fois pour les objets, les engins emportés, et également pour les populations au sol. Donc on est tous modélisés par un cylindre et avec des cartes de répartition de la population, on sait quand est-ce qu'il faut lancer pour assurer le minimum de risque en cas d'échec au lancement.
C'est ça.
Mais et pour Artemis, il n'y a pas plus de risque que pour la navette spatiale.
J'imaginerais qu'il y a plus de risque une fois qu'on est sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, et si on compare avec le nombre de météorites qui tombent sur la Terre, il y en a quand même pas mal de tonnes par an, on risque de recevoir quelque chose en permanence.
Oui, mais ce ne sera pas du débris spatial issu de l'activité humaine.
Voilà.
Tout à fait. Mais il n'y a pas de risque plus important que durant l'ère Apollo, pas du tout. Le risque sera le même. Ouais.
Il y a une autre question là, qui vient des internautes à propos du CNES. Le CNES, selon un rapport du CNES, les collisions seraient la première cause de mortalité entre guillemets des satellites actifs. Est-ce que c'est avéré ça ?
Alors la première cause, sans doute. Enfin, la première cause, c'est leur fin de vie intrinsèque.
Oui. Mais en cas de problème,
ah oui. On a vu hein, que toute collision avec un débris typiquement d'une taille millimétrique peut causer des dommages sur l'alimentation électrique parce que les panneaux solaires sont impactés. Effectivement, quand il y a souci, la cause des débris spatiaux est investiguée en tout premier lieu. Absolument.
D'accord. Mais sinon, quand même, on peut dire que la majorité des satellites actifs s'arrêtent parce que la mission s'arrête. C'est quand même pas un
oui.
taux de.
Hein, oui, oui, c'est pas un taux significatif.
D'accord. Oui.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question. Vous avez parlé, là, justement, en fin de conférence, de la réglementation sur les fréquences. Je crois que début avril, on a annoncé que les Starlink perdaient, en fait, leur fréquence en France. Est-ce que du coup il peut y avoir une réglementation au niveau européen qui pourrait du coup impacter notamment les satellites Starlink et du coup leur nombre en orbite basse en fait tout simplement.
Ce serait très bien. Mais encore une fois, le souci c'est qu'il n'y a pas d'organe de régulation ni étatique ni inter-état. Donc.
Mais du coup, ce serait le premier point d'impact, peut-être le plus majeur pour réglementer ces constellations.
Peut-être, mais comme encore une fois, le problème principal, c'est le nombre de ces satellites-là. Et ça, il n'y a rien qui va le réguler, parce qu'on pourrait aller à l'encontre de la liberté d'entreprendre, en particulier aux États-Unis. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc là je dirais qu'il y a, pour le moment, il n'y a rien d'autre que le bon sens.
Il n'y a pas un traité international qui est mis en place pour justement faire en sorte que l'impossibilité de sortir de sortir, d'après ce que je comprends, on a compris, c'est qu'à terme, on ne pourra même plus sortir. On ne pourra plus sortir s'il y a trop de déchets, on ne pourra plus envoyer quoi que ce soit dehors. Donc, comment faire en sorte pour que ça n'arrive pas ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ?
Alors, la prise de conscience.
Des moyens et des mesures prises ?
La prise de conscience est incontestable dans différents types de communautés. La question est de savoir ce qu'il est possible de faire au niveau des citoyens. Au niveau des agences, sachant qu'il y a des enjeux financiers absolument considérables et que c'est compliqué d'aller à l'encontre de ça. Les traités, c'est très bien. Les derniers traités n'ont pas été signés par les puissances spatiales.
Des prédateurs. Hein.
Et voilà, donc prise de conscience, raison collective, c'est peut-être un vœu pieux, mais dans ce domaine-là, comme dans d'autres certainement, il faudrait qu'on arrive à s'auto-réguler, mais c'est sans doute encore un petit peu tôt pour que la prise de conscience gagne des populations complètes. Alors, il y a des actions au niveau de l'ONU, au niveau de l'UNESCO, Mais encore une fois, pour protéger hein, le ciel, pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité, est-ce que ce sera suffisant? Sans doute que pas. Est-ce que c'est une étape? Sans doute que oui. Qui vivra, verra. Mais encore une fois, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de 6 constellations d'Internet au débit, en orbite basse en tout cas.
Alors justement, en ce qui concerne les géostationnaires, ce sont quand même des orbites très, très éloignées, hein, 36 000 km. Donc c'est un volume, ça concerne un volume beaucoup plus grand. Pourquoi faut-il absolument désorbiter les satellites alors qu'il y en a très peu et que finalement la densité est très faible?
Alors le cas de l'orbite géostationnaire est particulier parce que l'orbite géostationnaire est unique. Il n'y a qu'une seule orbite qui permet de garantir à un satellite de rester à la verticale d'un même lieu.
Les places sont chères.
Donc l'orbite géostationnaire est très stratégique pour la météorologie et les télécommunications.
D'accord.
Donc depuis le milieu des années 60, il y a quand même eu un certain nombre de lancements. Et donc il faut de la place.
D'accord, donc, les places sont chères.
Voilà.
C'est compliqué. Est-ce que vous avez encore une question? Est-ce qu'il y a une question internaute? Oui. Alors, je vais consulter les internautes. Alors, c'est laquelle qui est... Celle-là, peut-être. Oui. Ah oui, il y a une question intéressante parce qu'effectivement, il y a un catalogue qui existe de tous les satellites qui sont en orbite, mais les militaires échappent un peu à ça. Les militaires ne sont pas censés donner et communiquer des informations sur leurs satellites.
Alors, les militaires communiquent sur les satellites des autres. Et pendant un certain temps, les militaires américains communiquaient sur les satellites français et les Français sur les satellites américains. Mais à partir du moment où les militaires français ont commencé à communiquer sur les satellites américains, les Américains ont arrêté de communiquer sur les satellites français.
D'accord.
Voilà. Donc, concurrents et complémentaires, ça se joue là aussi. Chaque système, chaque pays a son propre système de surveillance, une partie publique, une partie privée. Dans les catalogues de satellites, il y a une petite lettre caractéristique. Les deux lettres les plus utilisées, c'est un U et c'est un C.
Oui.
Le C, c'est pour classified, et le U, c'est pour unclassified.
Oui, c'est ça.
Donc, les catalogues existent. Chaque pays se bat un petit peu pour avoir le système de poursuite plus performant que celui du voisin. Mais la problématique est la même. Parce que même dans les grosses entreprises, les agences spatiales, il n'y a pas de catalogue unique. Je vous ai parlé de populations constituées de plusieurs centaines de millions d'objets. Les objets les plus gros, tout le monde les voit, c'est 25 000 seulement. Donc, tout l'enjeu, c'est dans tout le reste, et dans les tout petits, d'ailleurs.
Bon, vous voyez, c'est réjouissant. Ça veut dire que c'est toujours le même problème. Quand on fait une découverte, quand on maîtrise une technique, les problèmes éthiques viennent toujours après. C'est jamais en amont qu'on réfléchit.
Oui. On les découvre après coup.
Toujours après coup.
On les découvre après
parfois,
coup.
Parfois, quand c'est trop tard.
Voilà.
Hélas.
Hélas.
Là, on espère que ce ne sera pas le cas. Mais...
Alors, la prise de conscience a été assez rapide, je trouve, malgré tout.
Oui.
Est-ce qu'elle sera suffisante ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Eh bien, l'avenir le dira. En tout cas, l'espace, ça restera un enjeu absolument majeur pour tout un tas de domaines. Les solutions commencent à poindre concernant la conception, concernant la désorbitation, concernant les capacités de calcul pour éviter que les problèmes ne s'aggravent. Faut déjà s'en réjouir que cette prise de conscience ait eu lieu.
On voit bien l'ambiance actuelle, que dans l'ambiance qui règne en ce moment, que la conscience humaine est assez est solide. Absolument. Il faut faire confiance.
Le problème majeur quand même, c'est l'occupation des fréquences radio, en particulier pour la radioastronomie. Ça, c'est quelque chose d'absolument crucial pour l'avenir.
Bon, bah sur ces paroles optimistes ou pseudo-optimistes, on te remercie encore, Florent, et donc rendez-vous le mois prochain. Tu connais le thème? Ah oui, le 7 juin, la conférence sera proposée par Alain Riazuelo, qui est quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu et qui a vient d'écrire un livre sur la rotondité de la Terre, comment on a mesuré que la Terre était ronde, mais qui est connu pour avoir proposé des simulations numériques extraordinaires sur la déformation de l'espace, des images spatiales induites par la présence d'un trou noir. C'est quelqu'un qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, donc vous êtes aussi cordialement invité, encore une fois. Et je dis ça également pour les internautes que nous remercions d'avoir été présents aujourd'hui. Voilà, bonsoir.
Bonsoir.